France Inter.
Psychiatre, professeur et directeur du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne et de l'université Paris-Cité, Raphaël Gaillard est également président de la fondation Pierre Deniker pour la recherche sur les troubles psychiques, président de la compagnie des experts médecins auprès de la cour d'appel de Paris, co-rédacteur en chef de la revue scientifique L'Encéphale et jeune académicien. Le normalien, chercheur en neurosciences, a publié chez Grasset les passionnants ouvrages « Un coup de hache dans la tête » et l'homme augmenté. Ce soir, dans le cadre de la journée spéciale santé mentale, nous parlerons de troubles psychiques, de médecine, de remèdes, d'avancées scientifiques, de créativité et de ce qu'on peut faire pour modifier positivement, évidemment, la structure de notre cerveau. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
La 20e heure, journée spéciale santé mentale, des solutions existent.
Bonsoir Raphaël Gaillard.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
La dernière chose qui m'a enthousiasmé, c'était un petit film, par sa durée, japonais, qui s'appelle En boucle, qui est sorti cet été, qui doit jouer encore dans quelques salles, et qui est réjouissant, très vivant, dans son mélange du Japon traditionnel et de la science-fiction.
Je crois que c'est sur le modèle un peu d'un jour sans fin, c'est-à-dire une journée qui se répète en boucle, mais là, la temporalité est réduite.
Exactement, on passe de 24 heures à 2 minutes, donc on est en boucle sur 2 minutes, dans un ryokan, ces auberges traditionnelles japonaises, avec donc un comique de répétition, par définition, puisque tout se répète toutes les 2 minutes, mais la galerie de portraits, de personnages évolue, et c'est très drôle, c'est même désopilant par moments. Je trouve que c'est une grande réussite.
C'est justement ce que vous aviez choisi de faire découvrir aux auditeurs. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si tout se répétait toutes les 2 minutes ? J'ai vu la bande-annonce de ce film, donc je sais qu'il y en a un qui se suicide juste pour voir ce que ça fait.
Oui, effectivement, vous avez vu cela. Non, je n'essayerai pas. En l'occurrence, si ça se répétait toutes les 2 minutes, notre émission durerait indéfiniment, ce qui serait un sacré challenge.
Vous avez été élu en avril 2024 à l'Académie française au fauteuil de Valéry Giscard d'Estaing et reçu sous la coupole par l'historien Pascal Horry en mai dernier. Vous êtes à moins de 50 ans le Benjamin de l'institution. Alors je vais commencer par vous poser une question sur la vieillesse. On dit souvent que les facultés cognitives décroissent avec le temps. Or si je veux bien croire que la mémoire ou la rapidité de pensée s'érode, n'est-on pas plus intelligent lorsqu'on a plus d'expérience et beaucoup plus d'occasions de déguiser sa pensée sur de multiples sujets ?
Oui, bien sûr. En fait, les deux réalités se confrontent. D'un côté, c'est vrai qu'on perd des neurones pour l'essentiel passé la vingtaine, donc ça commence tôt. On en fabrique encore quelques-uns, mais beaucoup moins qu'on en perd. Quand je faisais mes études de médecine, on disait qu'on ne faisait que perdre des neurones. Aujourd'hui, un petit espoir, on en fabrique quelques-uns, mais la temporalité quand même est celle du déclin du nombre de neurones dans le cerveau. Et puis dans le même temps, notre cerveau, c'est un organe qui est fait de connexions, et ces connexions, elles s'affinent, elles s'améliorent, elles se diversifient à certains égards, et donc le cerveau continue de se transformer, même s'il perd des neurones, avec l'expérience qui l'engrange, qui le modèle, qui lui donne forme. Ce que vous décrivez en termes de maturité, pour moi, ça s'incarne dans ce corps et ce cerveau, et effectivement, ça nous donne aussi d'autres moyens de faire mieux.
Comment est-ce qu'on peut créer des neurones ?
Alors, on peut fabriquer des neurones, on appelle ça la neurogénèse. Ça n'arrive que dans certaines régions bien spécifiques du cerveau. Et on peut même augmenter la neurogénèse avec certains procédés biologiques, par exemple. Typiquement, les antidépresseurs, quels qu'ils soient, ont comme voie finale commune d'effet, au-delà de leur mécanisme précis, le fait d'amplifier la neurogénèse dans des régions clés du cerveau.
On ne peut pas le faire soi-même ?
Si, on peut le faire soi-même, par exemple, faire du sport, l'oxygénation du cerveau produit aussi ce même effet de neurogénèse. Ensuite, je le redis, pour l'essentiel, l'important, c'est surtout de modifier les connexions entre ces neurones plutôt que fabriquer des nouveaux neurones.
Et ça, c'est plus accessible ?
Ça, c'est accessible par le simple fait que tout ce que nous faisons modifie les connexions de notre cerveau. Donc, on pourrait dire que dès qu'on fait quelque chose, c'est bénéfique au cerveau. On pourrait dire que c'est un organe qui ne s'use que quand on ne s'en sert pas.
Et est-il utile d'essayer de se déconditionner de certaines habitudes ?
Alors, il y a des habitudes qui sont même plus précisément appelées des addictions.
Oui, mais je parlais plutôt de se brosser.
Ben oui, mais ça fait partie de notre champ quotidien d'exercice en psychiatrie, celui des addictions. Et ce sont des habitudes, des mauvaises habitudes qui jouent des tours. Donc, il vaut mieux essayer de s'en débarrasser, et c'est possible. Ensuite, les habitudes, c'est bien aussi qu'il en existe, c'est bien qu'on puisse compter sur quelque chose qui se reproduit, peut-être pas toutes les deux minutes comme dans En boucle, mais qui nous garantit une forme de stabilité.
Pensez-vous que les psychiatres vont plus mal ou mieux que leurs patients ?
Je pense mieux que leurs patients, du moins je l'espère. Et je pense d'ailleurs que c'est important de se dire que l'empathie d'un clinicien ne nécessite pas d'avoir vécu ce qu'un patient a vécu. C'est important de le dire parce qu'on pourrait se dire qu'il faut avoir vécu ce que le patient a vécu pour le comprendre. Et évidemment, ça n'est pas ça l'empathie. Et heureusement que ça n'est pas ça. Sinon, d'ailleurs, en pratique, il faudrait pour telle personne qui a eu une addiction ou qui a une addiction, qu'elle soit soignée par un psychiatre qui a eu la même addiction. Pour telle personne qui a subi un viol, qu'elle soit soignée par un psychiatre ayant subi lui-même ce même abus. Évidemment que c'est aberrant. Non, la faculté des êtres humains qui est formidable, c'est de se représenter l'autre, de ressentir ce qu'il peut ressentir, l'empathie donc. Et ça, c'est fondateur de l'exercice de la psychiatrie. Donc il n'y a pas besoin d'être malade pour être psychiatre, fort heureusement.
France Inter. Journée spéciale santé mentale, des solutions existent. Eva Bester.
Je suis avec le psychiatre et chercheur en neurosciences Raphaël Gaillard pour cette journée spéciale consacrée à la santé mentale qui a lieu depuis ce matin sur la chaîne. Alors, entrons tout de suite dans les ténèbres avec des statistiques alarmantes. Près d'une personne sur cinq connaîtra au cours de sa vie un épisode dépressif caractérisé. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression sera la première cause de handicap dans le monde d'ici quelques années.
Oui, tout à fait. Pour la dépression, c'est spectaculaire. En plus, on peut dire, c'est important de le dire, que sa prévalence et sa fréquence dans la population augmente doucement mais régulièrement. Doucement dans la population générale et beaucoup plus rapidement chez les jeunes personnes, puisqu'on considère, c'est les données de Santé publique France, que quand elle a augmenté de quelques points, elle est passée de 8% à 13%, 12-13% chez les 18-75 ans en une quinzaine d'années, elle a doublé en passant de 10% à 20% chez les moins de 25 ans.
Et pourquoi, à votre avis, ils sont plus vulnérables ?
Alors, on n'a pas l'explication à ce phénomène global. Et d'ailleurs, il faut se garder de tirer des conclusions trop rapidement en pensant que c'est tel ou tel mécanisme, c'est probablement multifactoriel.
Comme je viens de le faire.
Il est possible, c'est une hypothèse, que notre rapport aujourd'hui à l'information, à la multiplication de l'information, à la prolifération de l'information, à ce que certains appellent l'obésité, l'infobésité plus exactement, y contribue. Il est possible que notre rapport aux nouvelles technologies aussi y contribue, mais c'est des explications parmi d'autres.
Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi penser que le volume d'épisodes dépressifs dans le monde reste stable, mais qu'il est plus documenté ?
Ça, c'est un point important pour toutes les maladies, en fait, pour tous les troubles mentaux. Est-ce que, par exemple, la prévalence, la fréquence de l'autisme augmente ou on le mesure mieux ?
Ou le suicide.
Et c'est pas toujours facile de faire la part des choses. Mais quand on s'attache à le faire bien, en épidémiologie, on montre que ça n'est pas seulement lié au fait qu'on mesure mieux. Non, il y a deux phénomènes. Premièrement, dans l'ensemble, le socle des troubles psychiques, il est considérable et il affecte tous les peuples. C'est pareil, sous toutes les latitudes et toutes les longitudes, malheureusement. Par exemple, la schizophrénie, c'est un peu moins d'1% de la population générale et c'est à peu près partout pareil, ce qui est extrêmement impressionnant. Et puis ensuite, il y a certains troubles qui fluctuent dans certaines populations, dans certains milieux. Par exemple, la schizophrénie, il est montré que dans un milieu urbain, son incidence est un peu plus élevée, ce qui donne donne lieu à toutes sortes d'hypothèses. Pour ce qui est de la dépression, encore une fois, on peut se demander si notre rapport au monde et à sa complexité, notre rapport aux nouvelles technologies, contribue pas, surtout chez nos jeunes, à la plus grande fragilité que nous observons aujourd'hui.
Je vais vous poser une question qui peut-être vous dérangera, puisque vous avez l'habitude, vous, d'interroger les autres et de ne jamais vous confier. Mais avez-vous déjà connu un épisode dépressif ou des troubles psychiques ?
Je vais vous répondre de façon détournée. Je pense que ce qui est fascinant dans les troubles psychiques, c'est que on les touche tous du doigt. C'est pas quelque chose qui est fondamentalement étranger à nous. C'est quelque chose que on pressent et même parfois que l'on ressent, sans pour autant que ça atteigne la forme aussi douloureuse, aussi terrible que ce que l'on peut voir chez certains de nos patients. Et donc il y a quelque chose qui dans les troubles psychiques est marqué par une forme de continuité avec l'expérience commune. C'est important de le dire parce qu'on pourrait se dire que c'est fondamentalement étranger, c'est fondamentalement alien, et on y reconnaît d'ailleurs la racine du mot qui amène ou a amené à désigner ses patients comme aliénés. Moi, je pense pas du tout, je pense qu'il y a quelque chose de radical, de terrible dans l'expérience des troubles psychiques, mais qui est aussi dans la continuité de ce que chacun d'entre nous peut vivre.
Pour autant, est-ce que le concept d'être humain sain et équilibré est une chimère ? C'est une question que je me pose régulièrement.
Je dirais plutôt que chacun a ses fragilités, ses lignes de faille, et c'est important de considérer que nous sommes tous traversés par des lignes de faille. Je crois effectivement que s'imaginer quelque chose d'absolument normal, ce qui est d'ailleurs pour un psychiatre quelque chose d'incongru, nous n'aimons pas même considérer la norme. C'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est la souffrance, et à partir de la souffrance, la définition de ce qui est pathologique. Mais c'est pas le normal et le pathologique, c'est vraiment la souffrance. Et donc, je m'intéresse pas beaucoup à la question de la normalité. Je m'intéresse plutôt au fait que les êtres humains sont traversés de lignes de faille et que parfois celles-ci s'ouvrent.
Vous remarquez que la parole s'est libérée autour des troubles psychiques, qu'ils sont très fréquents, mais que ça reste tout de même encore un tabou.
Oui, mais peut-être que ça reste un tabou justement parce que on pressent cette continuité. On pressent que ça n'est pas si loin de nous. Et comme ça n'est pas si loin de nous, ça nous fait peur parce que nous pourrions connaître ce vertige et même être précipités dans ces abysses. Donc l'une des raisons de ce tabou, à mon avis, c'est non pas justement le caractère fondamentalement étrange et étranger, mais la proximité. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je pense que pour les êtres humains que nous sommes devenus, les Homo sapiens, l'idée que nous puissions faillir par ce qui nous consacre comme Homo sapiens, nos facultés psychiques, c'est une blessure terrible. C'est ce qui nous a constitués dans le règne du vivant. Et l'idée que nous puissions, par cet organe, par ses fonctions, ses facultés psychiques, faillir, c'est quelque chose que nous ne voulons pas voir, puisque ça altère ce qui nous définit comme les Homo sapiens que nous sommes.
Et vous notez que les troubles psychiques sont d'une certaine façon, si je résume, le prix à payer pour notre humanité et notre évolution.
Oui, on peut aller jusqu'à ce raisonnement. Et pour aller jusqu'à ce raisonnement, ce que l'on peut dire, c'est que cet organe, le cerveau, a ce niveau de complexité, à ce niveau de puissance, d'efficacité, eh bien, il a renoncé à certains éléments de robustesse qui étaient beaucoup plus marqués. On peut l'objectiver, hein, ça, chez le primate non humain, c'est-à-dire le petit singe. On peut montrer que le signal dans le cerveau est plus robuste, il est codé de façon plus robuste. Chez nous, il est beaucoup plus complexe, il est beaucoup plus informatif, il nous permet des échanges et la compréhension de choses de façon beaucoup plus complexe. Mais cette complexité, elle se paye du fait que nous avons renoncé à la robustesse et que nous sommes donc dans le règne d'une fragilité de notre cerveau. Et si on le dit de cette façon, c'est important parce que ça aboutit à considérer que les troubles psychiques sont le prix à payer de la puissance de notre cerveau, c'est-à-dire le prix à payer de ce qui nous constitue comme les homo sapiens que nous sommes. Alors évidemment, ce qui m'intéresse, c'est pas tant les troubles psychiques, c'est les personnes qui en souffrent. Ça veut dire que celles-ci, elles sont pas en dehors de l'humanité, elles sont au cœur de l'humanité puisqu'elles illustrent malgré elles et malheureusement pour leur propre souffrance, le fait que notre puissance, celle des êtres humains que nous sommes, se paye au prix fort.
Alors évidemment, la majorité des gens ayant des troubles psychiques en souffrent et il n'est pas question de discuter cela. En revanche, je voudrais vous demander, ne trouvez-vous pas qu'il y a une sorte d'effet de mode ? En ce moment, je vais pas prendre la France, je vais prendre par exemple les États-Unis. Beaucoup de personnalités mettent en avant leurs troubles psychiques, parfois parlent de leurs traits autistiques ou de leur TDAH, mais ça semble plutôt suggérer des hauts potentiels, où certains le mettent sur le devant de la scène pour être plein. Il y a un peu de ça, j'ai l'impression, aujourd'hui.
C'est possible qu'il y ait un mouvement de balancier de l'autre côté, mais en même temps, le balancier était tellement loin du côté du tabou qu'on peut que se réjouir de cette libération de la parole. Et il y aura peut-être des excès, il y aura peut-être des effets de mode, mais tout est préférable au silence.
Selon les estimations de l'OMS, le suicide serait la 14e cause de mortalité dans le monde avec plus d'un million de décès chaque année. Et d'ici 2030, ce chiffre devrait augmenter de 50%, faisant du suicide la 12e cause de mortalité. Est-ce que vous avez aussi noté sa progression ? Et même question que tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas plus documenté, plus rapporté ?
Je ne sais pas si on peut réellement parler de progression, parce qu'à certains égards, il y a aussi des légers progrès dans la réduction du passage à l'acte suicidaire. Je crois que le suicide, il faut surtout dire qu'à l'échelle individuelle, au-delà des statistiques, c'est une dévastation absolument terrible. Alors évidemment, c'est la suppression d'une vie, donc cette personne n'est plus. Mais au-delà de ce drame, c'est une dévastation pour les proches. Parce que le suicide, c'est une négation de la vie pour la personne qui se suicide, mais à certains égards, c'est une négation de la vie pour toutes les personnes qui l'entourent. Et donc, il faut souligner à quel point le suicide est une dévastation contre laquelle il faut lutter absolument.
Quels que soient les troubles pris en charge, à peu près un tiers des patients n'obtiennent pas une réponse satisfaisante au traitement. Alors, quels sont les progrès ? Quelles sont les raisons de se réjouir ?
Alors d'abord, cette statistique, il faut la regarder sans être absolument pessimiste. Parce que si on vous disait que telle ou telle maladie grave, un cancer par exemple, évolue favorablement dans deux tiers des cas, vous vous diriez que c'est plutôt le signe que nous avons beaucoup progressé dans les soins. Donc il faut aussi constater cela. Pour autant, c'est vrai que si vous considérez qu'une personne sur trois des une personne sur cinq qui connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie n'aura pas une réponse satisfaisante à la prise en charge, qu'elle soit psychothérapeutique ou médicamenteuse, bah, ça fait beaucoup de monde. Ça fait vraiment beaucoup de monde. Et donc ça veut dire qu'il faut absolument faire davantage de recherches, mieux comprendre ces troubles pour mieux les soigner, parce qu'ils sont fréquents et qu'ils sont à l'origine d'une souffrance personnelle majeure.
Il y a donc des cas désespérés ?
Je ne veux pas croire aux cas désespérés. Et je dois dire que moi-même, je suis dans un exercice particulier à Sainte-Anne parce que je reçois des patients qui ont vu 4 ou 5 psychiatres et qui sont souvent dans cette situation qu'on pourrait qualifier de désespérée. Peut-être ai-je eu de la chance, peut-être avons-nous eu de la chance, ces patients et moi, mais je n'ai jamais vu de situation désespérée. J'ai toujours vu la possibilité d'aller mieux.
Et si grâce à un simple comprimé, vous pouviez avoir tout ce que vous voulez ? Un cachet par jour et mes capacités sont devenues illimitées. J'ai appris le piano en 3 jours. Les maths sont devenues utiles et fun. Je savais tout sur tout.
Grazie mille.
Depuis quand tu parles italien ?
Et si vous aviez la possibilité de devenir une version parfaite de vous-même ?
C'est un film qui m'a beaucoup fait fantasmer, Limitless de Neil Burger, avec Bradley Cooper qui prend un cachet, ben, on peut dire que c'est de la drogue, et il devient incroyablement intelligent, il peut apprendre toutes les langues, il a une mémoire absolue, et enfin voilà, ça devient un surhomme. Évidemment, ça se paye, et là vous voyez très bien où je veux vous emmener, Raphaël Gaillard, sur l'usage des psychostimulants, sur lesquels on pourrait fantasmer évidemment, mais Vous dites que ça finit toujours par se payer.
Oui. En fait, on peut poursuivre le raisonnement que j'ai suivi tout à l'heure, hein, de dire que nous payons le prix fort de la puissance de notre cerveau. Si je le disais plus simplement, notre cerveau ne se supporte plus et nous le payons du prix des troubles psychiques. Eh bien, si nous augmentons encore la puissance de ce cerveau, ce prix à payer sera plus élevé. Et de fait, c'est ce que nous observons avec les psychostimulants. Oui, les psychostimulants ont des effets, mais on le paye quand ils sont utilisés hors de leur indication, je le précise, donc quand ils sont utilisés pour augmenter plutôt que réparer, on le paye. Concrètement, une personne qui a pris de la cocaïne de façon prolongée a des troubles psychiques importants, elle en souffre beaucoup, et c'est pour ça d'ailleurs que cette substance est destructrice.
Alors il y a en revanche un grand espoir dans la psychiatrie depuis peu, qui vient d'une drogue qui était prise de façon récréative jusqu'à présent, la kétamine. C'est l'esquétamine qu'on peut administrer par spray nasal à quelqu'un sous surveillance médicale à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette substance qui a l'air assez révolutionnaire ?
Oui. Et en précisant d'emblée qu'on est bien donc dans le cas où on soigne une personne qui souffre de dépression résistante, c'est-à-dire n'ayant pas répondu à deux traitements bien conduits. Eh bien, chez ces patients, nous pouvons utiliser cette substance, la kétamine, qui est un agent anesthésiant, qui est très utilisé ou a été très utilisé pour endormir des patients, pour anesthésier, en médecine vétérinaire, mais aussi par exemple chez l'enfant. Eh bien, cette substance à petite dose a des effets antidépresseurs spectaculaires. Alors, la particularité, c'est deux choses. Premièrement, c'est que pendant l'administration, eh bien, on connaît des transformations de son expérience, du monde, un peu comme les psychédéliques. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui considèrent que la kétamine ou l'esquétamine peuvent être assimilées aux psychédéliques. Il y a quelque chose de l'ordre du voyage, du trip. Et puis, deuxièmement, il y a des modifications biologiques contemporaines qui permettent un effet antidépresseur qui, celui-ci, est immédiat. Je précise, un traitement antidépresseur conventionnel, c'est un effet antidépresseur en 3 à 6 semaines, alors qu'avec la kétamine ou l'esquétamine, vous avez un effet antidépresseur dont le pic d'effet est à 1 jour, à 24 heures, donc c'est ultra rapide. C'est évidemment très prometteur, ça fait partie de notre arsenal thérapeutique. Parfois nous avons un vocabulaire presque militaire pour dire à quel point nous sommes mobilisés pour soulager nos patients. Et puis ça ouvre des voies de recherche passionnantes pour faire d'autres molécules de cette famille ou cousine pouvant améliorer ainsi l'humeur des patients lorsqu'ils sont dans la souffrance de la dépression.
France Inter, la 20e heure. Journée spéciale santé mentale, des solutions existent.
La parole est à monsieur Jean Delay pour la lecture de son remerciement.
Messieurs, l'auteur des caractères ou les mœurs de ce siècle, le jour de son remerciement, louez vos voix d'être toujours libres et arbitraires. Aujourd'hui, comme jadis, ces mots mesurent la gratitude d'un récipiendaire. Puisqu'il sait devoir son privilège à la liberté de votre arbitrage et à elle seule, mais qu'il lui est difficile de donner cours à son sentiment. Trop confus, il ferait douter de votre goût, trop assuré, il ferait douter du sien. À se déclarer indigne, il manquerait de fierté, voire de conviction. À se prétendre digne, il manquerait de vergogne, voire de jugement. Dans une compagnie qui illustrèrent tant de mérites et de talents, le récipiendaire est, comme disent nos philosophes de l'existence, un être en situation. Je m'aperçois que cette situation est délicate et crains qu'il n'y paraisse. En entrant ici, comment ne pas regretter de n'être que ce que l'on est ?
Raphaël Gaillard, vous êtes entré à Sainte-Anne dans le service de Jean Delay, psychiatre, écrivain et inventeur du premier neuroleptique en 52. On l'entend lors de son discours de réception à l'Académie française en janvier 1960. Et sa fille, qui est aussi une immortelle, vous décrit comme son héritier. Vous sentez-vous son héritier et pouvez-vous nous dire ce que vous avez en commun? Je crois que ça a trait à la littérature.
Alors parfois, on a la chance de rencontrer comme ça des figures tutélaires. Et pour moi, ce fut Jean Delay, que je n'ai pas connu, mais qui, pour ainsi dire, habitait les murs, les espaces de ce service à Sainte-Anne où je suis arrivé comme étudiant en médecine. Et j'étais très heureux de découvrir qu'on pouvait être scientifique, on pouvait inventer la psychopharmacologie moderne, celle dont nous venons de parler, et on pouvait en même temps être littéraire. Et pour celui que je suis, qui a une sorte de pathologie du choix, et donc une pathologie du renoncement, celui donc qui voulait être à la fois scientifique et littéraire, l'idée qu'il était possible d'être scientifique et littéraire, tel que l'incarnait Jean Delay, ça a été une grande chance que de rencontrer cette existence pour moi.
Mais c'est possible, évidemment, comme un homme de la Renaissance.
Alors là, ce serait le formidable pic de la Mirandole. Mais plus modestement, c'est l'idée que, en matière de psychiatrie, évidemment qu'il faut agir conformément aux données de la science, et donc être un scientifique. Et quand on va voir un psychiatre, on ne va pas voir un marabout, on va voir quelqu'un qui agit scientifiquement. Et en même temps, le cœur de l'exercice a trait au récit d'une personne. Et rien n'éduque mieux à la compréhension, à la perception, à la compréhension d'un récit que la littérature. Donc pour moi, un psychiatre, c'est un scientifique et un littéraire, ou plus exactement, c'est quelqu'un qui ne maîtrise ni l'un ni l'autre parfaitement, mais qui s'efforce de tenir l'un et l'autre, un peu comme il faudrait tenir un grand écart.
Dans votre ouvrage « Un coup de hache dans la tête », vous revenez et décortiquez l'idée selon laquelle génie et folie seraient liées. Je vais très vite, évidemment. Si on avait donné du lithium ou d'autres médicaments à Baudelaire et à Van Gogh, aurait-il fait les œuvres d'art que l'on connaît?
C'est important comme question, parce que je pense qu'elle nous traverse tous. Ce que je peux vous dire, hein, moi, c'est que je soigne de nombreux patients, certains sont des artistes, et je n'ai jamais vu ces traitements comme quelque chose qui pouvait interférer, qui pouvait diminuer, qui pouvait réduire leur sensibilité, leur créativité, la puissance de leur création. Au contraire, ce que j'ai vu, c'est que ça leur permettait le plein déploiement de leur art. Donc je pense pas du tout, moi, que les traitements soient quelque chose qui puisse stériliser la créativité. Et je me méfie d'ailleurs de cette idée selon laquelle nos traitements normalisent, nous revenons à ce fantasme de la norme.
Pour moi, personnellement, la dépression a toujours été un sujet central dans ma vie, toute ma vie. Et comme tout le monde, j'ai essayé différents moyens de faire face à cette dépression. La drogue, les femmes, l'art, la religion. Chacun essaye ce qu'il peut. Finalement, en dernier recours, on peut venir ici. C'est très intense. On s'assoit dans le hall spécial pour la méditation, 5 heures par jour. Et on est juste en face de soi-même. Alors parfois c'est agréable, parfois c'est pas agréable du tout. Les gens essaient de réparer leur vie ici. Il n'y a personne ici qui est un touriste ou qui est là juste pour le luxe. Parfois, les gens entrent dans une période d'introspection très profonde.
Léonard Cohen, interviewé et traduit par Jean-Luc Hesse en 97 sur France Inter. Raphaël Gaillard, qu'est-ce que vous pensez d'un artiste comme lui, qui a connu tous les excès, qui a été sujet à la dépression, qui a pris des antidépresseurs, qui s'est rendu compte que ce n'était pas la solution et qui, lui, a trouvé le salut dans la spiritualité zen?
Alors d'abord, je trouve que sa voix, même lorsqu'il ne fait que parler, est magnifique.
Oui.
Et je voudrais le dire avant tout, pour être très sensible aux voix, je le souligne. Ensuite, je pense que chacun reconstruit, organise son propre récit de vie, sa propre trajectoire. Et parfois, en étant dans le vrai, parfois en l'étant pas tout à fait, je n'en sais rien pour Leonard Cohen, j'en sais rien. J'entends ce qu'il dit de la puissance de la spiritualité. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est présent aujourd'hui en psychiatrie.
La spiritualité ?
sous une forme peut-être désarmée de sa spiritualité. C'est un peu paradoxal.
Oui.
Ça veut dire que nous développons des techniques de méditation dites en pleine conscience, qui ne sont pas accompagnées de la croyance qui les nourrit lorsqu'il s'agit d'une pratique spirituelle. Ça veut dire que nous reconnaissons la puissance de ce geste de la méditation, et même nous essayons de l'opérationnaliser, c'est horrible de le dire ainsi, mais c'est la réalité, pour qu'il soit plus efficace pour le plus grand nombre.
Alors, si on fait ces choses qu'on nous a rabâchées depuis notre naissance, du sport, de la méditation et parfois des siestes, mais micro, vous insistez dessus, on peut vraiment modifier la structure de son cerveau et aller mieux ?
Alors j'ai d'abord dit que tout ce que nous faisons modifie la structure de notre cerveau. C'est la première chose, en permanence il est plastique. Ensuite je pense qu'il faut considérer, c'est vraiment important aujourd'hui, pas seulement le soin, la réparation, mais la prévention. Alors évidemment, quand on dit ça, on est tout de suite suspect d'être capitaliste, au sens où, après avoir parlé du capital santé, on parlerait du capital santé mental. Mais je crois qu'il faut aussi résoudre, il y a une vraie question aujourd'hui autour de la prévention et de tout ce qui peut, en matière de prévention, améliorer notre santé mentale. Donc oui, il y a un vrai sujet, il y a aujourd'hui des méthodes qui ont fait leurs preuves. C'est pas elles qui feront que demain la schizophrénie n'existera plus, c'est absolument certain, mais c'est peut-être elles qui feront qu'un certain nombre de souffrances que nous traverserons seront moins fréquentes ou moins intenses. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on.
Le standard de ce soir, John Warwick, Walk On By. Et en parlant de musique, Raphaël Gaillard, la musique agit-elle concrètement sur l'humeur ?
Oui, d'abord tout le monde peut en faire l'expérience. La musique a un effet d'entraînement sur l'humeur, et c'est d'ailleurs un inducteur émotionnel très puissant. Maintenant, quand vous êtes dans une situation pathologique, quand vous êtes bloqué dans un état, que ce soit la grande euphorie d'un état d'immaniaque, d'excitation, ou la mélancolie dans les tréfonds de la dépression, alors c'est une illusion que de penser qu'une musique apaisante dans le premier cas ou stimulante dans le second vous sortira de l'état dans lequel vous êtes.
Alors là, on va découvrir votre choix musical et toute l'équipe a été surprise.
We're moving forward, we missing more power, and we're gonna dominate popping. That shit being your topic. Young China, Sumana Toppy. No one, nobody can stop me. Sumana no gonna do ducky.
Jump up like a pop up toast a lift.
Qu'est-ce qu'on entend, Raphaël Gaillard ?
On entend un tube de K-pop du groupe Stray Kids qui s'appelle Cérémonie et que je trouve alors pour le coup particulièrement revigorant. J'adore cette énergie. Et puis je trouve que pour le psychiatre que je suis, écouter la société, écouter les adolescents, écouter ce qu'ils écoutent, c'est crucial.
Et en parlant justement de ces adolescents, aujourd'hui, il semble ne plus y avoir de grands idéaux. Pensez-vous que ça participe au fait que la dépression s'accroît ?
C'est possible. Ça veut dire que dans les nombreuses hypothèses contribuant à l'explication de cette souffrance des adolescents et même des préadolescents, il y a le fait qu'il n'y a pas de perspective, la Terre est en train de rôtir, il n'y a pas de perspective politique, il n'y a pas de croyance politique qui fonctionne, il y a les perturbateurs endocriniens, et puis il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'indiquais tout à l'heure comme un moyen déterminant, notre rapport à la prolifération d'informations et aux nouvelles technologies. C'est vrai que ne pas croire à quelque chose, ne pas être porté à quelque chose, c'est ne pas être soulagé de notre condition humaine. Et l'adolescence, c'est une sorte de mise en abîme de ce que les êtres humains traversent dans la solitude de l'être humain, dans le vertige de l'être humain, qui peut-être est apaisé par la croyance.
Est-ce que le monde va véritablement plus mal et c'est pour ça qu'on est pratiquement tous déprimés? Je ne dis pas dépressifs, je dis déprimés parce qu'à chaque fois que j'interroge les gens autour de moi, je le remarque de plus en plus. Ou est-ce qu'on aurait pu dire ça en fait à toutes les époques?
Ça aussi, c'est une grande question. Est-ce qu'on a le nez dans le guidon et on ne regarde que ce que l'on voit aujourd'hui ? C'est bien difficile de dire. C'est vraiment bien difficile de dire. Et c'est d'autant plus troublant que dans l'histoire, quand on s'intéresse à la littérature, on trouve déjà beaucoup de descriptions de ce que nous vivons aujourd'hui, datant d'un siècle, deux siècles ou bien davantage. Pour autant, je crois quand même qu'il y a une forme d'accélération sur les 10-20 dernières années. Et sur ces 10-20 dernières années, avec des mesures qui sont quand même homogènes, qui sont les mêmes, eh bien, il semble bien que quelque chose s'aggrave.
Alors là, je vais vous demander quelque chose qui ne concerne pas les gens connaissant un épisode dépressif qu'on doit traiter, mais justement cet état déprimé, assez général. Que diriez-vous à quelqu'un qui ne trouve pas de raison de se réjouir aujourd'hui ?
Moi, j'ai pas de solution magique.
Non, mais pas magique. Une piste ?
Je suis pas sûr d'avoir de piste, en tout cas si facile à suivre. Si c'est une piste, je pense qu'il faut encore défricher beaucoup de choses. Ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que dans l'état d'incertitude dans lequel nous sommes, nous ne pouvons compter que sur le seul exercice de la raison pour avancer dans le monde. Je précise par là qu'il est tentant de dire que la seule chose qui nous permettrait de distinguer le bon grain de l'ivraie, c'est l'esprit critique. Et je crois que c'est pas facile d'être armé uniquement de l'esprit critique. Je pense qu'il faut aussi avoir un certain nombre de convictions, de valeurs, de croyances qui nous permettent de faire avec l'incertitude. En fait, l'incertitude, il faut savoir que c'est ce que nous vivons le plus mal, de très loin. D'ailleurs, si vous prenez une petite souris et que vous lui faites subir des petits désagréments régulièrement, simplement incliner sa cage, des choses comme ça, tout à fait anodines, mais que vous le faites sans qu'elle puisse l'anticiper, sans qu'elle puisse le prédire, alors elle va finir par déprimer. Si vous la maltraiter à heure fixe, non, elle ne va pas déprimer. Donc le pire, c'est l'incertitude, et c'est vrai que c'est dépressogène, ça veut dire que ça nous déprime.
Je ne veux absolument pas savoir comment vous savez ceci sur la petite souris, mais dépressogène, en même temps, le bouddhisme s'était déjà emparé de l'idée de l'incertitude, c'est-à-dire c'est la condition humaine. En fait, on essaye de contrôler tout ce qu'on ne peut pas contrôler.
Oui, absolument. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes qui amplifient cette incertitude. Je trouve que, par exemple, la prolifération informationnelle nous confronte à une incertitude plus grande. Et je pense, et effectivement, nous constations cette condition humaine marquée par l'incertitude, la difficulté de l'exercice de l'être humain. Mais Aujourd'hui, cette incertitude est majorée et je dis que penser la combattre uniquement par le seul exercice de l'intelligence, de la raison, je pense que c'est un leurre. Il faut aussi des éléments sur lesquels on puisse s'arrimer solidement pour avancer dans la vie.
Alors vous, vous êtes arrimé solidement à un certain moment de votre vie au violon. Tout à l'heure, vous parliez de renoncement. Vous y avez renoncé puisque en vous voyant le pratiquer, vous vous êtes jugé dépourvu de dons, je vous cite. Vous avez des sœurs musiciennes, un père psychanalyste, enseignant la psychanalyse de l'art aux Beaux-Arts de Paris, une mère professeure d'allemand, traductrice avec votre père de plusieurs volumes de l'œuvre de Jung. Et dans votre ouvrage « L'homme augmenté », on apprenait que l'apprentissage d'une langue donnait accès à une autre façon de penser. Alors ça, on peut s'y mettre à n'importe quel âge, même si on n'excelle pas.
Bien sûr, bien sûr. Et par exemple, les vertus d'un apprentissage, y compris chez une personne âgée, souffrant de légers troubles cognitifs, les vertus d'un apprentissage de la langue sont d'une nouvelle langue, d'une langue étrangère, sont bien identifiées. Donc, bien sûr, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, cet organe, le cerveau, ne s'use que lorsque l'on ne s'en sert pas. Et au contraire, le faire carburer, le faire travailler ne peut être que bénéfique. J'ajoute, comme vous venez de le dire, que en matière de langue, c'est plus riche encore que le seul entraînement d'un organe, le cerveau, d'une intelligence. C'est aussi penser différemment, puisque c'est penser comme l'autre pense dans une autre langue.
Que pensez-vous du cas de l'allemand Abi Warburg, historien de l'art et père de l'iconologie, interné pour troubles psychiatriques et graves psychoses selon les termes employés à l'époque, qui se serait, j'emploie le conditionnel, guéri tout seul en faisant une conférence, là où il était interné, sur les Amérindiens Hopi, sa spécialité?
Oui, le récit est incroyable. Mais de même que pour Leonard Cohen tout à l'heure, je ne sais pas si c'est ce qui explique la transformation d'Abi Warburg. Je ne sais pas, en fait. Et pour autant, ça m'intéresse beaucoup que l'un comme l'autre ait pu construire un récit de ce qui a modifié leur trajectoire. Et on revient à cette question du récit et de l'importance de cette identité narrative, celle qui est traversée par les mots, qui nous constitue.
Le roman doit être amusant. Quand j'écrivais ce roman, j'avais cette grande conviction qu'il faut s'amuser en écrivant un roman et qu'il faut amuser le lecteur. Je crois que c'est quelque chose de très élémentaire. C'est le plaisir de raconter une histoire, inventer l'histoire. D'où cette forme très rapide, parce que ce roman, c'est un peu comme un vaudeville, n'est-ce pas? Je sens souvent une certaine nostalgie de Prague. Et cette nostalgie de Prague, c'est la nostalgie de l'humour. D'un certain humour, des plaisanteries gratuites et d'un certain esprit de non-sérieux. Je crois que les Français sont beaucoup plus gais que nous, peut-être beaucoup plus contents aussi que nous, mais à la fois beaucoup plus sérieux que nous. Nous sommes peut-être plus tristes, mais beaucoup moins sérieux.
Raphaël Gaillard, dans votre ouvrage « L'homme augmenté », vous donnez, selon vous, la réponse à la fragmentation du monde. C'est le retour au livre, à la lecture comme remède aux mots contemporains, notamment concernant la mémoire, la concentration. Et là, on entend Milan Kundera en 76 sur France Culture, puisque vous le citez dans votre discours de réception à l'Académie française, et vous citez un ouvrage qui n'est pas un de ses plus connus, « La valse aux adieux ». J'aime bien toujours terminer par des recommandations de lecture.
Alors, moi j'ai adoré Kundera quand je l'ai découvert adolescent, ça fait partie des éléments fondateurs de mon rapport à la littérature. Ce livre, évidemment, mais les autres également. Et c'est redire ce que vous venez de dire, hein, c'est que notre rapport à la littérature, à la lecture, nous constitue comme être humain, pas seulement parce que ça entraîne nos facultés, la mémoire, comme vous venez de le dire, mais vraiment parce que notre identité dépend de ces récits.
En quoi le plaisir du texte de Barthes a été aussi pour vous ce fondateur?
J'adore ce texte, cette idée que mon corps puisse suivre des idées, des émotions qui ne sont pas tout à fait les miennes. Considérer que le rapport au texte n'est pas un rapport fait simplement de la rationalité, de l'exercice le plus pur de l'intelligence, mais qu'il est marqué par ces affects, par ces transformations du corps. Je crois que c'est très important. Il y a une forme de transport dans la lecture et j'aime emprunter ce mouvement-là.
Merci beaucoup Raphaël Gaillard.
Merci.
Je rappelle que vous avez publié chez Grasset « Un coup de hache dans la tête et l'homme augmenté ». Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Louise Tempero et Franck Olivard, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Loïc Frapsos.